Aristote, Politique, livre 8, chapitre 7. Sommaire. Théorie des moyens généraux de conservation et de salut pour les États démocratiques, oligarchiques et aristocratiques. Respect des lois, franchise politique, courte durée des fonctions, surveillance active exercée par tous les citoyens. Révision fréquente du sens légal. Précautions à prendre contre les grandes fortunes politiques. Censure pour les mœurs des citoyens. Intégrité des fonctionnaires publics. Concession des petits emplois au peuple. Amour de la majorité des citoyens pour la Constitution. Modération dans l'exercice du pouvoir. Soin à donner à l'éducation publique. Paragraphe 1. Cherchons maintenant quels sont pour les États en général et pour chacun d'eux en particulier les moyens de conservation. Un premier point évident, c'est que si nous connaissons les causes qui ruinent les États, nous devons connaître aussi les causes qui les conservent. Le contraire produit toujours le contraire et la ruine est l'opposé de la conservation. Paragraphe 2. Dans tous les États bien constitués, le premier soin qu'il faut prendre est de ne point déroger en quoi que ce soit à la loi et de se garder avec la plus scrupuleuse attention d'y apporter même les plus faibles atteintes. L'illégalité mine sourdement l'État. De même que de petites dépenses souvent répétées finissent par ruiner les fortunes. On ne remarque pas les pertes qu'on éprouve parce qu'on ne les fait point en masse. Elles échappent à l'observation et dupent la pensée, comme ce paradoxe des sophistes. Si chaque partie est petite, le tout aussi doit l'être. Or, c'est là une idée qui est tout à la fois en partie vrai et en partie fausse. Car l'ensemble, le tout lui-même n'est pas petit, mais il se compose de parties qui sont petites. Il faut donc, ici, d'abord prévenir le mal dès l'origine. En second lieu, il ne faut pas se fier à ces ruses et à ces sophismes qu'on ourdit contre le peuple. Les faits sont là pour les condamner absolument. Nous avons déjà dit plus haut ce que nous entendons par sophisme politique, manœuvre que l'on croit si habile. Paragraphe 3. Mais on peut se convaincre que bien des aristocraties et même quelques oligarchies doivent leur durer moins à la bonté de cette constitution qu'à la prudente conduite des gouvernants, tant envers les simples citoyens qu'envers leurs collègues. Soigneux d'éviter toute injustice à l'égard de ceux qui sont exclus des emplois, mais ne manquant jamais d'en appeler les chefs au maniement des affaires. Se gardant de blesser dans leurs préjugés de considération les citoyens qui y prétendent et les masses dans leurs intérêts matériels. Surtout, conservant entre eux et parmi tous ceux qui prennent part à l'administration des formes toutes démocratiques. Car, entre égaux, ce principe d'égalité que les démocrates croient trouver dans la souveraineté de la majorité n'est pas seulement juste, il est encore utile. Paragraphe 4. Si donc les membres de l'oligarchie sont nombreux, il sera bon que plusieurs des institutions qui la régissent soient toutes populaires. Que, par exemple, les magistratures ne durent que 6 mois, pour que tous les oligarques égaux entre eux puissent les exercer tour à tour. Par cela seul qu'ils sont égaux, ils forment une sorte de peuple. Et ceci est si vrai qu'il peut s'élever parmi eux, comme je l'ai déjà dit, des démagogues. Cette courte durée des fonctions est de plus un moyen de prévenir, dans les aristocraties et dans les oligarchies, la domination de minorités violentes. Quand on reste peu de temps en fonction, il n'est pas aussi facile d'y faire le mal que quand on y demeure longtemps. C'est uniquement la durée trop prolongée du pouvoir qui amène la théorie dans les États oligarchiques et démocratiques. Ou bien, de part et d'autre, ce sont des citoyens puissants qui visent à la tyrannie. Ici les démagogues, là les membres de la minorité héréditaire. Ou bien, ce sont des magistrats investis de quelque grand pouvoir après qu'ils en ont joui longtemps. Paragraphe 5. Les États se conservent non pas seulement parce que les causes de ruine sont éloignées, mais quelquefois aussi parce qu'elles sont imminentes. La peur, alors, fait qu'on s'occupe avec un redoublement de sollicitude des affaires publiques. Aussi, les magistrats, qui ont à cœur le maintien de la Constitution, doivent-ils parfois, en supposant fort proche des dangers éloignés, préparer des paniques de ce genre, pour que les citoyens veillent comme dans une alerte nocturne et ne désertent pas la garde de la cité. De plus, c'est toujours par des moyens légaux qu'il faut tâcher de prévenir les luttes et les dissensions des citoyens puissants, et de prémunir ceux qui sont en dehors de la querelle avant qu'ils y prennent part personnellement. Mais reconnaître ainsi les symptômes du mal n'est pas d'un esprit vulgaire, et cette perspicacité n'appartient qu'à l'homme d'État. Paragraphe 6. Pour empêcher dans l'oligarchie et dans la République les révolutions que la quotité du sens peut amener, quand il reste immuable au milieu de l'accroissement général du numéraire, il convient de réviser les cotes en les comparant au passé, soit tous les ans, dans les États où le sens est annuel, soit dans les grands États, tous les 3 ans ou tous les 5 ans. Si les revenus se sont accrus ou réduits, comparativement à ceux qui ont servi d'abord de base au droit politique, il faut pouvoir, en vertu d'une loi, élever ou abaisser le sens, l'élever proportionnellement au niveau de la richesse publique si elle s'est accrue, et en cas de diminution, le réduire dans une mesure égale. Paragraphe 7. Si l'on néglige cette précaution dans les États oligarchiques et républicains, il s'établit bientôt, ici l'oligarchie, là le gouvernement héréditaire et violent d'une minorité, ou bien la démagogie succède à la République ou la démagogie à l'oligarchie. Un point également important pour la démocratie, l'oligarchie en un mot pour tout gouvernement, c'est de veiller à ce qu'aucune supériorité disproportionnée ne s'élève dans l'État. C'est de donner aux fonctions peu d'importance et une longue durée, plutôt que de leur abandonner en un seul coup une autorité fort étendue. Car le pouvoir est corrupteur, et tous les hommes ne sont pas capables de supporter la prospérité. Si l'on n'a pas pu organiser le pouvoir sur ses bases, on doit du moins se bien garder de le retirer tout à la fois, ainsi qu'on l'avait imprudemment donné. Il faut le restreindre petit à petit. Paragraphe 8. Mais c'est surtout par les lois mêmes qu'il convient de prévenir la formation de ces supériorités redoutables, qui s'appuient sur l'immensité de la fortune, sur les forces d'un parti nombreux. Quand on a pu les empêcher de se former, il faut faire en sorte qu'elles aient étalé leur importance à l'étranger. D'un autre côté, comme les innovations peuvent s'introduire d'abord dans les mœurs des particuliers, on doit créer une magistrature chargée de veiller sur ceux dont la vie est peu d'accord avec la Constitution. Dans la démocratie, avec le principe démocratique, dans l'oligarchie, avec le principe oligarchique. Cette institution s'appliquerait également à tous les autres gouvernements. Par des motifs semblables, il ne faut jamais perdre de vue les accroissements de prospérité et de fortune que peuvent prendre les diverses classes de la société, et le moyen de prévenir le mal et de remettre le pouvoir et le maniement des affaires aux éléments opposés de l'État. J'entends par éléments opposés les gens distingués et le vulgaire, d'une part, et de l'autre, les pauvres et les riches. On doit s'attacher ou à confondre dans une union parfaite les pauvres et les riches, ou bien à augmenter la classe moyenne. Car c'est ainsi qu'on empêche les révolutions qui naissent de l'inégalité. Paragraphe 9. Voici un objet capital dans tout État. Il faut bien faire en sorte, par la législation ou tout autre moyen aussi puissant, que les fonctions publiques n'enrichissent jamais ceux qui les occupent. Dans les oligarchies surtout, ceci est de la plus haute importance. La masse des citoyens ne s'irrite pas autant d'être exclus des emplois, exclusion qui peut être compensée pour eux par l'avantage de vaquer à leurs propres affaires, qu'elle s'indigne de penser que les magistrats volent les deniers publics. Car alors, on a deux motifs de se plaindre, puisqu'on est à la fois privé et du pouvoir et du profit qu'ils procurent. Paragraphe 10. Une administration honnête, quand on peut l'établir, est même le seul moyen de faire coexister dans l'État la démocratie et l'aristocratie, c'est-à-dire d'accorder aux citoyens distingués et à la foule leurs prétentions respectives. En effet, le principe populaire, c'est la faculté pour tous d'arriver aux emplois. Le principe aristocratique, c'est de ne les confier qu'aux citoyens éminents. Cette combinaison sera réalisée si les emplois ne peuvent être lucratifs. Les pauvres, alors, qui n'auraient rien à gagner, ne voudront pas du pouvoir et penseront de préférence à leurs intérêts personnels. Les riches pourront accepter le pouvoir parce qu'ils n'ont pas besoin que la richesse publique vienne ajouter à la leur. De cette façon encore, les pauvres s'enrichiront en vaquant à leurs propres affaires et les hautes classes ne seront point forcées d'obéir à des hommes sans consistance. Paragraphe 11. Pour éviter, du reste, la dilapidation des revenus publics, qu'on fasse rendre les comptes en présence de tous les citoyens assemblés, et que des copies en soient affichées dans les fratries, les cantons et les tribus. Et pour que les magistrats soient intègres, que la loi ait soin de payer en honneur ceux qui se distinguent par leur bonne administration. Dans les démocraties, il faut empêcher non seulement qu'on en vienne à partager les biens des riches, mais même qu'on partage l'usufruit. Ce qui, il vaut mieux aussi, ne pas accorder aux riches, même quand ils le demandent, le droit de subvenir aux dépenses publiques considérables mais sans utilité réelle, telles que les représentations théâtrales, les fêtes aux flambeaux et autres dépenses du même genre. Paragraphe 12. Dans les oligarchies, au contraire, la sollicitude du gouvernement doit être fort vive pour les pauvres. Et parmi les emplois, il faut qu'on leur accorde ceux qui sont rétribués. Il faut punir tout outrage des riches à leur égard beaucoup plus sévèrement que les outrages des riches entre eux. Le système oligarchique a grand intérêt aussi à ce que les héritages s'acquièrent seulement par droit de naissance et non à titre de donation, et qu'on ne puisse jamais en cumuler plusieurs. Par ce moyen, en effet, les fortunes tendent à se niveler et les pauvres arrivent en plus grand nombre à l'aisance. Paragraphe 13. Une institution également avantageuse à l'oligarchie et à la démocratie, c'est d'assurer l'égalité ou même la prééminence pour tous les emplois qui ne sont pas de première importance dans l'État, aux citoyens qui ont une moindre part de pouvoir politique. Dans la démocratie, aux riches, dans l'oligarchie, aux pauvres. Quant à ces hautes fonctions, elles doivent être toutes, ou du moins la plupart, exclusivement remises aux mains des citoyens qui jouissent des droits politiques. Paragraphe 14. L'exercice des fonctions suprêmes demande, dans ceux qui les obtiennent, trois qualités. D'abord, un attachement sincère à la Constitution, une grande capacité pour les affaires, et en troisième lieu, une vertu et une justice analogues dans chaque espèce de gouvernement au principe spécial sur lequel il se fonde. Car le droit variant selon les constitutions diverses, il faut nécessairement aussi que la justice se modifie pour chacune d'elles. Mais ici se présente une question. Comment se décider et choisir quand toutes les qualités requises ne se trouvent pas réunies dans le même individu? Par exemple, si tel citoyen, doué d'un grand talent militaire, est improbe et peu dévoué à la Constitution, et si tel autre, fort honnête et partisan sincère de la Constitution, est sans capacité militaire, lequel des deux choisira-t-on? Paragraphe 15. Il faut, ce semble, s'attacher ici à bien connaître deux choses. Quelle est la qualité vulgaire et quelle est la qualité rare? Ainsi, pour le grade de général, il faut regarder à l'expérience plutôt qu'à la probité, car la probité se rencontre beaucoup plus aisément que le talent militaire. Pour la garde du trésor public, il convient de prendre un tout autre parti. Les fonctions de trésorier exigent beaucoup plus de probité que n'en ont la plupart des hommes, tandis que la dose d'intelligence nécessaire pour les remplir est fort commune. Mais peut-on dire encore si un citoyen est à la fois rempli de capacité et d'attachement à la Constitution, à quoi bon lui demander en outre de la vertu? Les deux qualités qu'il possède ne lui suffiront-elles donc pas pour bien faire? Non, sans doute, car ces deux qualités éminentes peuvent s'unir à des passions sans frein. Les hommes, dans leurs propres intérêts qu'ils connaissent et qu'ils aiment, ne se servent pas toujours fort bien eux-mêmes. Qui répond qu'ils n'en feront pas autant, quelquefois, quand il s'agira de l'intérêt public? Paragraphe 16. En général, tout ce qui dans la loi concourt, d'après nos théories, au principe même de la Constitution est essentiel à la conservation de l'État. Mais l'objet le plus important, c'est, ainsi que nous l'avons souvent répété, de rendre la partie des citoyens qui veut le maintien du gouvernement plus forte que celle qui en veut la chute. Il faut, par-dessus tout, se bien garder de négliger ce que négligent aujourd'hui tous les gouvernements corrompus, la modération et la mesure en toutes choses. Bien des institutions, en apparence démocratiques, sont précisément celles qui ruinent la démocratie. Bien des institutions, qui paraissent oligarchiques, détruisent l'oligarchie. Paragraphe 17. Quand on croit avoir trouvé le principe unique de vertu politique, on le pousse aveuglément à l'excès, mais l'erreur est grossière. Ainsi, dans le visage humain, le nez, tout en s'écartant de la ligne droite, qui est la plus belle, pour se rapprocher de l'Aquilin et du Camus. Peut cependant rester encore assez beau et assez agréable. Mais si l'on poussait cette déviation à l'excès, on ôterait d'abord à cette partie la juste mesure qu'elle doit avoir, et elle perdrait enfin toute apparence de nez par ses propres dimensions qui seraient monstrueuses, et par les dimensions beaucoup trop petites des parties voisines. Cette observation, qui pourrait s'appliquer également à toute autre partie du visage, s'applique absolument aussi à toutes les espèces de gouvernement. Paragraphe 18. La démocratie et l'oligarchie, tout en s'éloignant de la constitution parfaite, peuvent être assez bien constituées pour se maintenir. Mais si l'on exagère le principe de l'une ou de l'autre, on en fera d'abord des gouvernements plus mauvais, et l'on finira par les réduire à n'être plus même des gouvernements. Il faut donc que le législateur et l'homme d'État sachent bien distinguer, parmi les mesures démocratiques ou oligarchiques, celles qui conservent et celles qui ruinent la démocratie ou l'oligarchie. Aucun de ces deux gouvernements ne saurait être et subsister sans renfermer dans son sein des riches et des pauvres. Mais quand l'égalité vient à s'établir dans les fortunes, la Constitution est nécessairement changée, et en voulant détruire des lois faites en vue de certaines supériorités politiques, on détruit avec elles la Constitution même. Paragraphe 19. Les démocraties et les oligarchies commettent ici une faute également grave. Dans les démocraties, où la foule peut faire souverainement les lois, les démagogues, par leurs attaques continuelles contre les riches, divisent toujours la cité en deux camps, tandis qu'ils devraient, dans leur harangue, ne paraître préoccupés que de l'intérêt des riches. De même que, dans les oligarchies, le gouvernement ne devrait sembler avoir en vue que l'intérêt du peuple. Les oligarques devraient surtout renoncer à prêter des serments comme ceux qu'ils prêtent aujourd'hui. Car voici les serments que, de nos jours, ils font dans quelques États. Je serai l'ennemi constant du peuple. Je lui ferai tout le mal que je pourrais lui faire. Il faudrait concevoir la chose d'une façon tout opposée et, en prenant un masque tout différent, dire hautement dans les serments de ce genre « Je ne nuirai jamais au peuple ». Paragraphe 20. Le point le plus important de ceux dont nous avons parlé pour la stabilité des États, bien que de nos jours il soit partout négligé, c'est de conformer l'éducation au principe même de la Constitution. Les lois les plus utiles, les lois sanctionnées par l'approbation unanime de tous les citoyens, deviennent complètement illusoires si les mœurs et l'éducation ne répondent pas aux principes politiques, démocratiques dans la démocratie, oligarchiques dans l'oligarchie. Car il faut bien le savoir, si un seul citoyen est sans discipline, l'État lui-même participe de ce désordre. Paragraphe 21. Une éducation conforme à la Constitution n'est pas celle qui apprend à faire tout ce qui plaît, soit aux membres de l'oligarchie, soit aux partisans de la démocratie. C'est celle qui enseigne à pouvoir vivre sous un gouvernement oligarchique ou sous un gouvernement démocratique. Dans les oligarchies actuelles, les fils des hommes au pouvoir vivent dans la mollesse, tandis que les enfants des pauvres, s'endurcissant au travail et à la fatigue, acquièrent le désir et la force de faire une révolution. Paragraphe 22. Dans les démocraties, surtout dans celles qui paraissent constituer le plus démocratiquement, l'intérêt de l'État est tout aussi mal compris, parce qu'on s'y fait une idée très fausse de la liberté. Selon l'opinion commune, les deux caractères distinctifs de la démocratie sont la souveraineté du plus grand nombre et la liberté. L'égalité est le droit commun. Et cette égalité, c'est précisément que la volonté de la majorité soit souveraine. Dès lors, liberté et égalité se confondent dans la faculté laissée à chacun de faire tout ce qu'il veut. Tout à sa guise, comme dit Euripide. C'est là un bien dangereux système, car il ne faut pas que l'obéissance constante à la Constitution puisse paraître aux citoyens un esclavage. Au contraire, ils doivent y trouver sauvegarde et bonheur. Paragraphe 23. Nous avons donc énuméré, d'une manière à peu près complète, les causes de révolution et de ruine, de salut et de stabilité pour les gouvernements républicains.